Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On est encore loin de savoir, semble-t-il, ce qu'ont réellement vécu les habitants de la planète, qui ont été confinés chez eux pendant des semaines et des semaines, avec une menace planant derrière chaque geste, chaque paquet, chaque visage aperçu. Il y a fort à parier que chacun y a découvert quelque chose, y a fait une expérience unique, parfois très dure, plus rarement joyeuse. Pour personne, le confinement n'a été un moment anodin. Ainsi, Florence Villard, qu'on a déjà entendue dans Les Pieds sur Terre parler de ses attaques de panique, a essayé de surmonter sa peur du Covid en devenant la première influenceuse angoisse sur Instagram. Elle a très vite créé un groupe de soutien aux anxieux en période de pandémie, un espace de bienveillance et d'entraide pour qu'à chaque panique attaque, nous nous sentions moins seuls, écrit-elle sur Corona Anxieux United. Dans un article intitulé « La Duchesse et la Serpillière », Lopes raconte également l'aventure extrême de la Duchesse Antoinette de Rohan, confinée dans son château de 2500 m² à Josselin dans le Morbihan. « Certes, nous n'avons pas de problème de distanciation sociale », a-t-elle assuré à l'hebdomadaire. Mais d'ordinaire, secondée par une quinzaine d'employés de maison et autres jardiniers pour recevoir des milliers de visiteurs par an, la duchesse s'est soudain retrouvée seule à faire le ménage et à essayer de freiner les poussées anarchiques de la végétation dans le parc. À 73 ans, la châtelaine explique à Charlotte Sliesinski de l'Obs : « J'ai décidé de faire une pièce par jour à fond. J'allume France Musique ou France Culture et hop, je passe la serpillière, j'astique les plaintes, je nettoie les vitres. » Elle fait alors une découverte de taille, je cite, « C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une grande surface de carrelage. » En attendant la réouverture de ce somptueux château prévu le 4 juillet, voici trois autres histoires de confinement à haut risque pour nourrir ce qui sera bientôt un genre en soi, littéraire, documentaire, le récit de confinement. Elles sont racontées par Valérie Borst, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et j'habite à Paris. Et donc j'ai été infectée par le Covid-19 au tout début du confinement. J'ai un grand frère qui a 30 ans et qui est en dernière année d'internat en chirurgie dans un hôpital de la PHP, un hôpital parisien. Et j'ai un frère un peu plus jeune qui a 23 ans et qui est étudiant. On était tous dans la même maison avec mes parents. Donc avant le début du confinement, donc mon frère qui est médecin a commencé à avoir des symptômes, a commencé à se sentir mal. Et bon, à ce moment-là, on avait assez peu d'informations en fait sur la maladie elle-même. Donc on l'a pas trop pris au sérieux quand il disait qu'il commençait à se sentir mal. Mais voilà, il y a un ou deux jours qui ont passé et ensuite à l'hôpital, il y a eu un test qui a été organisé. Donc, il s'est fait tester avec beaucoup de collègues à lui. Et le lendemain, donc là, c'était le début du week-end, les résultats sont arrivés et ils étaient tous positifs au Covid. Ben, il s'est confiné dans sa chambre, en fait. Il a arrêté de sortir. Et là, moi, je suis tombée aussi malade. Enfin, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Donc, j'ai commencé à avoir de la fièvre, à avoir des courbatures, en fait, à être dans un état grippal. Avoir très très mal à la tête, donc je me suis mis pareil dans ma chambre dès que j'ai commencé à avoir les symptômes. Et ensuite, un jour ou deux après, c'est mon plus jeune frère qui a commencé à avoir des symptômes, à avoir de la température, des courbatures, de la toux. Et donc pareil, il s'est confiné dans sa chambre. Et du coup là, c'était voilà, le week-end était passé, on était tombés malades les uns après les autres. Et là, le confinement, dans le confinement, dans ma chambre, a commencé. Et puis, on a mis en place une petite organisation pour protéger mes parents En fait, ça a été l'angoisse des 2 à 3 semaines qui sont arrivées. C'était qu'on s'est vu être malades les uns après les autres et on avait peur du moment où ça allait être nos parents qui allaient avoir les premiers symptômes. Donc, en fait, pour le quotidien, c'était ma mère qui apportait les repas. Elle posait les repas devant les portes et elle toquait et ensuite elle partait. On attendait 2 minutes. On ouvrait, on récupérait le plateau et on refermait. Et on faisait pareil en fait pour débarrasser. Donc elle venait avec des gants débarrasser le plateau, la vaisselle, elle lavait tout, voilà, l'eau bouillante, enfin elle essayait de nettoyer au maximum. Et mes parents ont une salle de bain dans leur chambre, donc heureusement parce que ça nous a permis vraiment de bien séparer les espaces. Donc nous on utilisait la même salle de bain, on désinfectait en fait tout le temps après les passages parce que c'est vrai que on n'avait pas d'informations sur l'immunité, sur la recontamination. Donc on se disait que si on était plus contagieux, on allait pouvoir se recontaminer les uns les autres à l'infini. Donc on essayait quand même d'appliquer des gestes barrières même entre nous, parce qu'on savait pas. Enfin, et même quand on demandait aux médecins, ils n'avaient pas vraiment de réponse à nous donner sur ça. Donc pour les repas et pour la salle de bain, après c'est vrai que on voyait personne, donc ça a commencé à être un petit peu pesant, mais on avait en fait on a la chance d'avoir un balcon filant avec les chambres en bout à bout, enfin en file indienne. Du coup mes parents venaient nous voir par la vitre en fait comme un zoo. Ça va, oui, ça va. Et ils faisaient l'un après l'autre. Et voilà, et mes frères et moi, c'était principalement ça va. Pareil, ça va, pareil. Mais heureusement qu'il y avait la vitre quand même pour mes parents quand ils venaient me voir. On s'en rassure un peu, quoi. Ensuite, mon frère, quand il a fait le test à l'hôpital et qu'il a été positif, ils l'ont fait rentrer dans un dispositif de surveillance que la PHP a mis en place, qui s'appelle Covidome. Et en fait, c'est le personnel de l'hôpital qui va suivre les patients à distance et qui va leur demander de prendre leurs constantes, donc le rythme cardiaque, respiratoire, donner la température tous les jours et d'autres constantes. Et comme ça, ils surveillent et puis ils vont rappeler quand les constantes sont pas bonnes, que c'est trop, etc. Nous, il a répliqué sur nous ce dispositif. Donc, il nous a expliqué comment prendre notre rythme cardiaque ou voilà les autres données qu'on devait lui fournir et ensuite tous les jours on lui donnait et comme ça lui permettait de suivre en fait l'évolution de la maladie et ça nous a permis quand mon plus jeune frère est passé un peu dans le côté sévère de la maladie de jauger ça et au bout du 7e jour lui les symptômes ont commencé à devenir très sévères avec des difficultés à s'oxygéner en fait à respirer dans les constantes qu'on prenait il y avait le rythme respiratoire et là c'était trop élevé et en fait moins on arrive à s'oxygéner plus on respire vite pour essayer d'avoir de l'oxygène. Et puis après, voilà, il toussait beaucoup. Et donc, quand il a été faire les examens à l'hôpital, au niveau des poumons, il y avait 20% des poumons qui avaient été atteints par la maladie. Et en fait, au bout de quelques jours, ça a continué comme ça. Et au bout de quelques jours, la fièvre a commencé à baisser petit à petit. Mais c'est vraiment au bout de 2 semaines que la maladie a commencé à décliner. Donc, c'est long comme processus. Et il a aucun problème de santé, il est jeune, il est sportif. Et à la fin, quand il est sorti, il a perdu 6 kilos. Et ensuite, au bout de 2 semaines, mon grand frère et moi, on a commencé à ressortir dans le salon. Donc on avait chacun notre chaise avec un masque, on touchait à rien. Donc petit à petit, on est ressorti de la chambre. Une semaine après, c'est mon petit frère qui est ressorti petit à petit de la chambre. Et en fait, on a continué à appliquer les gestes barrières pendant tout le temps qui a suivi. Et mon petit frère, là, il sort de sa grotte depuis peu parce que Du coup, c'est vrai que les médecins nous ont dit quand ça atteint les poumons, ça peut continuer quand on tousse à se mettre dans l'air. Et c'est ça, c'est que on a beaucoup d'infos aussi contradictoires, donc on savait pas trop. Parfois, mes parents voulaient laisser, puis après quelqu'un disait un truc contradictoire, donc on se disait bon, bah on le remet dans la chambre. Enfin, et mes parents ont pas été infectés en fait par la maladie. Donc c'est vrai que c'est un peu un miracle parce qu'en vivant sous le même toit, en fait non, ils sont pas tombés malades et on a continué en fait à appliquer les gestes barrières même après quand on était plus contagieux au bout d'un mois. Je pense que c'était dur pour mon grand frère aussi de voir qu'il l'avait ramené de l'hôpital et que un, deux, trois à la fin c'est ouais, on s'est dit qu'on allait tous que ça allait être un cluster ambulant et qu'on allait tous y passer et être malades. Ce qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est que mon frère manquait de masques en fait pendant le début de l'épidémie, avant d'être infecté. Et enfin, il nous disait qu'il y avait plus de masques, qu'il y avait eu beaucoup de vols à l'hôpital de masques. Et quand il est tombé malade et que, enfin voilà, et qu'on est tous tombés malades et que j'ai vu mon petit frère avoir quand même des symptômes sévères, etc. C'est vrai que j'étais en colère parce que je me suis dit comment les gens ont pu voler des masques et laisser les soignants se faire infecter.
Allô, attendez, vite, vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. Hein, parce que là, je suis sur mon portable avec mon autre petite fille. Allô?
Ah, vous êtes accompagnée, là? Il y a du monde avec vous?
Mes amis, mes petits voisins qui sont là, qui sont super gentils. Ils sont venus me sortir ma table de jardin. Et puis, bon, je suis dans ma cour, là, devant mes... Allô? Bonjour, oui, vous êtes... Excusez-moi, à midi, j'étais partie chez mes amis en face. J'étais un peu traînée. Allô?
Oui? Rebonjour.
Alors, mon prénom, c'est Anne-Marie. Je vais avoir 78 ans. Et j'habite Chaumincourt, et dans le département de l'Eure. Depuis 1964, j'habite la maison où je suis encore. Mon mari est décédé rapidement d'un cancer de poumon. C'est un monsieur qui fumait. Ça a été la douche froide quand on a appris sa maladie. 10 mois après, il n'y avait plus personne. On a travaillé tous les deux, on a élevé des animaux, après j'ai eu un gros poulailler, et puis j'étais à la fois chauffeur de tracteur, femme de ménage, on a tout faire. Voilà, c'était ma vie de femme d'agriculteur. Et j'ai un ami, depuis que mon mari est décédé, enfin. Et puis 5-6 ans après son décès, c'est un ami de la famille, quoi, Daniel. Et puis il me dit, bah t'es toute seule, et puis moi aussi, lui, sa femme, il est de ton côté, lui, du sien. Et puis, il me dit, oh, on devrait bien sortir ensemble, et ça ne me disait rien du tout, vous savez, je sais pas si j'ai bien fait, il y a des moments, je me dis, oh, j'aurais pas dû, puis après, je me dis, bon, c'est moins de solitude, quand même. Parce que quand on est au début de mon veuvage, je me suis retrouvée avec tous mes copains, mes amis de mon mari, toutes nos relations, mais il y avait des moments, lors d'une soirée ou d'un dîner, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là-dedans toute seule, quoi. On n'oublie pas ça, on n'oublie pas son passé, j'oublie pas mon mari, j'oublie pas. Mais bon, j'ai quand même quelqu'un qui pense à moi, je pense à lui, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, on irait bien là, qu'est-ce que t'en penses? Et puis voilà, c'est comme ça notre relation. J'ai quelqu'un à qui parler, vous voyez. C'est le plaisir d'être ensemble, quoi, c'est tout. Ça va, notre âge, c'est plus les amours de 20 ans, hein, c'est différent, hein. On est chacun chez nous. Bon, moi, ce qui me coûte maintenant, parce que bon, Daniel venait tous les soirs. Maintenant, bon, on se voit plus dans les mêmes conditions, disons. Bah, ça manque quand même, hein, parce que on a beaucoup, beaucoup de relations. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, d'après tout, le seul moyen qu'on puisse se rencontrer une fois dans la semaine, il dit, je vais faire les courses à Super U. Je dis, bon, mais moi, je vais venir à Super U aussi. Vous avez rendez-vous, comme des jeunes amoureux, sur le parking du petit Super U, parce qu'on n'a pas trop le droit non plus de se déplacer de village en village. vous savez, le parking, il est grand et puis on n'a aucun problème. Hein. T'as rencontré un tel m'a téléphoné, es-tu au courant de ci, il s'est passé ça. Et puis bon, c'est-à-dire que je lui prépare des petits plats parce que un homme tout seul, c'est pas toujours facile. Préparer son déjeuner, son dîner, enfin. Alors, je cuisine quelques trucs. Par exemple, j'avais acheté des asperges. Je lui dis, bon, tu vois, tu les mets à l'eau bouillante pendant un quart d'heure. Bon, ça, il va savoir le faire. J'ai cuit un artichaut, je lui ai cuit une cuisse de canard, j'ai fait un autre petit truc à côté, des œufs avec du thon. Enfin, je lui prépare des choses et puis il vient les chercher à Super U. Moi, c'est moins de solitude parce que, bon, je vais faire des. Je lui repasse ses chemises, enfin, je lui fais pas mal de petites choses. Et puis, bon, il compte sur moi, puis moi, je compte sur lui, parce qu'il me tient compagnie, quoi. Et puis, bon, il me dit, je vais faire 2-3 courses à Super U. Moi, je reviens, puis lui rentre chez lui. Je me suis jamais fait prendre, hein. Mais j'avais ma feuille de laisser-passer, où je m'étais, que je pouvais aller chez le docteur, chez le pharmacien, j'avais toujours un prétexte. Hein. Au moment que j'avais mon papier avec moi, ils m'ont rien dit. Hein. J'ai été contrôlée une seule fois, les gendarmes m'ont arrêtée en me disant « qu'est-ce que vous faites ?» J'ai écouté. En arrivant, j'ai écouté, il faut bien que je me nourrisse, alors bon, ils m'ont rien dit. Hein. J'avais l'excuse de la pharmacie. Et puis bon, ils sont sympas, hein, les gendarmes ici, on les connaît à peu près. Dans notre région, c'est comme ça. On se connaît tous, pour ainsi dire. Et puis mes voisins, bon, ils traversent la route, on se voit quand même. Vous voyez, à la campagne, hein. On se parle à distance, mais on se voit quand même. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose. On a continué à faire un petit dîner, chacun une fois chez l'un, une fois chez l'autre, mais on a de l'espace, on ne se met pas les uns à côté des autres. On ne s'embrasse pas, on ne se tient pas des poignées de main, on discute, quoi. Et voulez-vous qu'ils nous chopent, ils traversent la route, ils sont chez moi. Ils ont l'air de dire que ça peut revenir. Hein. On est à l'abri de rien du tout, parce que nous, dans nos campagnes, le confinement, on l'a fait, si vous voulez. Et ce que je fais, moi, c'est pour vous, c'est la vie, hein. Vous êtes tellement nombreux. Il n'y a pas assez de précautions de prise. On ne peut pas prendre autant de précautions, c'est pas possible.
C'était un tracteur qui passait ?
Oui, c'est des tracteurs qui sont passés. Et vous savez, les agriculteurs ici, ils doivent travailler. Hein. Ils sont en train de planter les pommes de terre, ils ont semé les betteraves. C'est un village agricole ici. Hein. Bon, bah, écoutez, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Oui, allô? Alors, je m'appelle Cécile, j'ai 35 ans depuis quelques jours et je vis dans une petite maison à Arras avec mon copain et mon bébé de 8 mois aujourd'hui. J'ai vécu dans la rue où j'ai acheté ma maison quelques années et c'est un quartier que j'aimais beaucoup. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'on comptait pas du tout acheter de maison, enfin, en tout cas pas sur le moment, et une amie m'a appelée pour me dire qu'il y avait une maison à vendre dans mon ancienne rue, et du coup elle a pensé à moi, donc j'ai appelé mon copain en disant « faut absolument qu'on visite », et lui me répond « mais oui, mais on n'a pas du tout prévu d'acheter, on n'a pas démarché les banques », j'ai dit « c'est pas grave, on va aller voir, c'est bon, c'est celle-là quoi ». C'est une grande maison de 1943, il me semble, sur 3 niveaux, et c'est des grandes pièces avec des plafonds très hauts. Alors pendant le confinement, moi j'étais en télétravail et mon conjoint aussi était en télétravail. Il est professeur, donc il envoyait des cours en visio et par mail. Et puis on avait beaucoup plus de temps que d'habitude, donc on a décidé de continuer en parallèle nos travaux. Et de là, il a décidé d'aller investir la cave. Vraiment, c'était une pièce dans laquelle on n'était pas jamais trop allé. En fait, on avait déposé des affaires un peu comme ça. Et donc, il a voulu poser son établi. Et pour cela, il fallait qu'il remette le sol à niveau, tout simplement. Alors, cette cave, elle se situe au bout du couloir de l'entrée. Et il y a quelques marches à descendre, une dizaine de marches. Et là, on arrive dans une cave assez brute, avec à peu près, je sais pas, peut-être 6-7 mètres carrés. C'est vraiment une petite cave. Et lui est parti avec sa pelle pour essayer de mettre le sol à niveau. Et un jour, donc en poussant la terre, alors il ne creusait pas, je précise, il poussait vraiment la terre, il est tombé sur un os. Alors il m'a appelé, moi j'étais sur mon ordinateur, j'ai descendu les quelques marches, donc je l'ai retrouvé avec un os à la main, et il m'a dit oui, c'est sans doute un chien, quelque chose comme ça, peut-être qu'à l'époque ça se faisait d'enterrer les animaux dans les caves. Bon d'accord, j'ai décidé de le croire et je suis retournée travailler. Et puis en fait, il a continué à pousser la terre. Et au bout d'un moment, en fait, j'entendais plus du tout de bruit dans la cave. Et du coup, j'étais un peu curieuse de savoir ce qui se passait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait fermé la porte. Et j'ai trouvé ça très étrange. Et donc, j'ai ouvert la porte et je l'entendais parler au téléphone. Il avait appelé un de ses amis. Et il disait, oui, il y a des dents, un bout de crâne. Donc là, j'ai poussé la porte de la main, je lui ai dit, mais quoi, qu'est-ce que t'as trouvé? Et là, je l'ai vu vraiment entouré d'ossements, avec des dents dans la main. Je me rends compte que c'est pas des petites dents et que c'est a priori quand même pas un chien ni un chat. Ça fait un peu scène de fouille archéologique. Et d'ailleurs, sa tête, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il est... il est assez satisfait de sa trouvaille. Il a la tête du petit garçon qui a trouvé un trésor, en fait. En tout cas, lui n'est pas du tout inquiet. Il a même le sourire aux lèvres. Moi, ça me fait pas rire parce que c'est dans ma maison. Et puis, bah, c'est pas. Moi, c'était pas du tout le trésor. Je l'imaginais pas comme ça. Si on avait dû trouver un trésor, je l'imaginais plus une boîte avec des vieilles lettres, des pièces d'or, mais pas du tout des dents et des tibias, quoi. Et par contre, ce qui vraiment est le plus, en tout cas, ce qui moi m'a le plus perturbé, c'est de voir les dents humaines, quoi. C'était vraiment ce qui ressemblait le plus en fait au corps humain à ce moment-là, quoi. Donc là, j'étais un peu en panique, évidemment. Je lui ai dit non, mais on peut pas rester avec ça sur les bras. Il faut appeler la police parce que qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Il faut qu'on nous donne des réponses, quoi. Et très très vite, en fait, ils sont arrivés. C'était une équipe de deux, donc ils sont arrivés un peu suspicieux, un peu froid, ce qui peut se comprendre, hein, parce qu'en plein confinement, on les appelle pour dire qu'on a trouvé des os dans la cave. C'est pas, enfin, je comprends leur étonnement. Et voilà, ils sont remontés en disant que d'après eux, ça ressemble fortement à des ossements humains, sachant qu'ils étaient quand même, il y avait quand même beaucoup, les os étaient quand même brisés un peu. Donc de là, ils ont appelé le procureur et en fait, le procureur a demandé de mettre la cave sous scellé. Donc ils ont bloqué la cave et ils ont posé des rubalises autour de la pseudo scène de crime avec des rubalises franchissement interdits police nationale. Et là, j'ai vraiment rigolé jeune parce que je me suis dit, on est confiné et sous scellé, bingo. Et le lendemain, une autre équipe est venue. Donc là, c'était un légiste et la scientifique qui est venue pour prendre des photos et du couloir et de la cave et récupérer aussi une partie des ossements. Alors, mais les premières nuits ont été assez difficiles. Je pensais beaucoup à ce squelette, d'autant plus parce qu'on était enfermés chez nous. Donc ça faisait un peu double peine. C'est-à-dire que vraiment, les premières nuits, j'étais vraiment à l'affût du moindre bruit. Alors, pourtant, je suis au courant, hein, un squelette ne bouge pas. Hein. Mais je sais pas, je me suis imaginé, j'avais peur un peu des courants d'air, j'étais un peu irrationnelle. Enfin, j'ai vraiment imaginé plein de choses, en fait. Il n'y avait pas une histoire, il y en avait beaucoup. La première, c'est que on vit à Arras, qui est une ville quand même qui a été fortement touchée par la guerre. C'est aussi une ville qui a beaucoup de souterrains. Et donc je me suis dit que c'était peut-être une victime ensevelie de la Première ou peut-être la Deuxième Guerre mondiale. Sachant qu'en plus, à 100 mètres de ma maison, en fait, mon arrière-grand-père a été bombardé à une rue d'ici. Et en fait, dans mes souvenirs d'enfant, j'avais le souvenir qu'on n'avait pas retrouvé son corps. Donc tout de suite, je me suis dit, ah bah voilà, c'est mon arrière-grand-père. Et puis j'ai appelé mon père et qui m'a dit non, on n'a pas retrouvé son corps tout de suite, mais on a fini par le retrouver, donc ce n'est pas lui. Alors après, je me suis dit que c'était peut-être toujours un soldat ou un cheminot, parce qu'on habite près de la gare, qui a été bombardé, et qui sait, peut-être que c'était un ami de mon arrière-grand-père. Et puis il y a eu un autre détail aussi, c'est que un des policiers nous a donné le lendemain, et c'était d'ailleurs très sympa de leur part, ils nous ont donné en fait un plan de notre quartier qui indiquait en fait qu'il y avait eu un monastère de moines trinitaires de 1260 à 1400, il me semble, au même endroit, enfin dans cet enclos en fait. Et donc je me suis dit à ce moment-là, ah, donc c'est peut-être un moine, qui sait. Et non, dans ce cas, ça serait vraiment très très ancien. Et je crois que plus c'est ancien, plus j'aime l'histoire, parce que j'ai pas envie que ça soit très récent en fait. Sinon, ça devient un peu sordide. Enfin, malheureusement, j'imaginais aussi qu'il ait pu être poussé dans l'escalier, parce qu'il était au pied de l'escalier. Qu'il était tombé, qu'on avait poussé, je sais pas. Enfin, alors ça, c'était les histoires qui me plaisaient le moins, donc je suis vite passée à autre chose. Et donc de là est venu plein de théories de tout le monde sur qui était ce squelette et qui était Daniel, puisque je l'ai appelé comme ça. Je l'ai appelé Daniel parce qu'il me fallait je donne un côté un peu humain à ses ossements. Et ce prénom, en fait, pour moi, était rassurant et mixte possible aussi, parce que on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, et je me disais qu'on pouvait toujours ajouter un E par la suite. Si des révélations étaient faites sur le sexe de ce squelette. On a commencé le confinement à trois avec mon compagnon et mon bébé. Et puis finalement, on a fini à quatre avec un squelette qu'on a appelé Daniel. Du coup, Daniel vit avec nous en partie maintenant, parce qu'une partie de l'autre partie de ses ossements est en analyse. Mais en tout cas, des fois, je me dis que je sais pas qui vit chez qui. Peut-être que c'est Daniel qui vit chez nous ou nous chez lui. Mais en tout cas, maintenant, il fait partie des conversations. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, je me suis habituée vraiment à l'idée. Et j'y pense évidemment encore quand je vais aux toilettes, quand je traverse le couloir, quand je passe devant cette porte. Et je suis complètement détendue chez moi, vraiment. Je me suis vraiment habituée au fait d'avoir des ossements dans ma cave.
C'était Confinement à haut risque, un reportage de Valérie Borst réalisé par Cécile Lafont. Merci à Sarah, Anne-Marie, à Cécile, à Julie, à Mathilde, à Fabien Bidot, à Hubert Ferret de La Voix du Nord et bien sûr à Sarah Jerry-Wick, qui est notre stagiaire, et à Camille Richir, l'attachée de production des Pieds sur Terre.